Donc, bonjour à tous. C'est une joie et un honneur pour Cathy et moi d'être avec vous aujourd'hui et toute la fin de semaine. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous t'invitons à faire ton œuvre ce matin dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, mais nous voulons entendre ta voix nous parler pour nous transformer de plus en plus à ton image. On ouvre ta parole ce matin avec respect dans nos cœurs et on te demande de parler à nos cœurs par ta parole, pour ta gloire, pour l'avancement de ton Église et ton royaume. Dans la région de Gatineau et au Québec, je te prie ces choses. Amen. Alors, la question pourrait se poser ce matin, est-ce que la prédication d'aujourd'hui est la continuation de la conférence sur le mariage d'hier? Et la réponse à cette question, c'est oui et non. Oui et non. Non, dans le sens que c'était pas nécessaire d'être ici en fin de semaine pour apprécier un message sur le pardon, parce que le pardon est un élément clé dans chaque relation interpersonnelle. Mais oui, parce que le pardon est un élément clé dans la relation du mariage et absolument fondamental pour avoir un mariage épanoui. Donc, oui et non. J'étais pasteur assez longtemps pour savoir que si je vous pose la question, quel est l'aspect ou quel est l'élément de la vie chrétienne que vous trouvez le plus difficile? On aurait différentes réponses. Certaines diraient, moi c'est de trouver la discipline de prendre mon temps chaque jour dans la parole avec le Seigneur. Ça, je lutte avec ça. D'autres diraient, c'est la prière. Je vois des personnes s'engager dans la prière, et pour moi, de prier fidèlement, c'est difficile. D'autres diraient, c'est le portefeuille, c'est la carnet de chèques. Quand ça vient le temps de donner la dîme, je trouve ça difficile. D'autres diraient de faire l'évangélisation, partager ma foi. J'aime Jésus, mais j'ai une petite crainte quand ça vient le temps. Mais si on était honnête avec nous-mêmes ce matin, je pense que beaucoup, beaucoup d'entre nous répondraient de pardonner. De pardonner est peut-être l'élément de la vie chrétienne qui est le plus difficile. Pourquoi? Pourquoi c'est si difficile de pardonner? Mais il y a beaucoup de raisons. Il y a l'orgueil qui rentre en ligne de compte. Afin de pardonner à quelqu'un, il faut piler sur notre orgueil. Et ça, ce n'est pas nécessairement facile. Il y a le facteur de vengeance. Nous avons dans notre nature pécheresse un coin de notre cœur qui a cet esprit de vengeance. Vous dites, non, pas moi, pas vous, mais moi, en tout cas. Il y a la douleur émotionnelle qui est attachée aux offenses qui étaient infligées, qui est réelle et qui est là. Tous ces facteurs et bien d'autres qu'on va regarder ensemble ce matin font en sorte que de pardonner est quelque chose de difficile. Donc, notre message s'intitule ce matin « Si vous pardonnez ». Et c'est basé sur deux passages qu'on va regarder ensemble, tous les deux dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu 6 et Matthieu 18. Je vois que vous êtes bien formés ici à l'église à Gatineau. J'entends les feuilles tourner. C'est bien, c'est bien. Donc, tournez là. Mais juste avant d'aller là, je vais commencer en vous posant une question bonbon, une question facile, mais ça prend une réponse collective de la foule ce matin. Ma question pour vous, c'est, est-ce que Dieu nous pardonne? Il faut que je vous entende, je veux vous entendre là. La réponse est oui, définitivement. En effet, je crois que le pardon, c'est le message central de la parole de Dieu. Plusieurs dans ma vie m'ont posé cette question. Et on a différentes réponses. Certaines personnes disent, mais c'est l'amour. D'autres disent, c'est. Moi, je crois que le pardon, C'est le message central de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. En Genèse chapitre 3, tout de suite après le péché d'Adam et Ève, Dieu s'est adressé au serpent. Puis il a dit, « Je vais mettre l'hostilité entre toi et la descendance de la femme. Toi, tu vas y mordre le talon, mais lui, il va t'écraser la tête. » Et drette là, il y avait une promesse de l'Éternel qu'un sauveur, un rédempteur viendrait pour pardonner la race humaine. Ensuite, dans l'Ancien Testament, s'ensuit tout le système des sacrifices des animaux avec le sang qui coulait régulièrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a amené avec eux au culte ce matin un bouc, une chèvre? Non, parce que ce n'est plus nécessaire. Pourquoi? Parce que plus tard, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus arriver, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. » 3 ans plus tard, sur la croix de Calvaire, Jésus a dit, « Tout est accompli. Tout est accompli parce que le pardon était maintenant disponible à cause de sa mort sur la croix. » Et plus tard, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, en Christ, Dieu était réconciliant le monde avec lui-même. Donc, ce pardon est le message central de toute la parole de Dieu. Donc, félicitations, vous avez eu la bonne réponse. Maintenant, je vous pose une deuxième question. Vous êtes prêts à répondre en foule, j'espère? La question est, est-ce que Dieu nous pardonne toujours? Allez-y. La réponse, c'est non. Je vous ai eu, n'est-ce pas? J'ai donné ce message à Trois-Rivières à peu près il y a 1 an. Et il fallait que je ramasse la mâchoire du gars dans la première rangée, là, quand il a vu le nom. C'était littéralement sur la plancher. Tellement qu'il était étonné. La réponse à cette question, c'est non. Jerry, de quoi tu parles? On va aller voir ensemble dans la parole de Dieu. Tournez avec moi à Matthieu chapitre 6, verset 15. Bravo à tous ceux qui ont tourné tantôt. Quand vous venez à l'église le dimanche matin, ne vous fiez pas au PowerPoint. On peut avoir une panne d'électricité, des fois l'ordinateur ne marche pas, et toutes sortes d'autres raisons. Amenez votre épée avec vous à l'église dimanche matin. Et suivez avec moi dans votre Bible ce matin. Donc, Matthieu chapitre 6, on va lire ensemble ce passage. Je vous place dans le contexte. On est dans le milieu du sermon sur la montagne. Le plus long et le plus magistral des discours de Jésus pendant son ministère terrestre. 3 chapitres au complet, Matthieu 5, 6 et 7, d'un enseignement ultra pratique. Cathy et moi, on est allés en Israël en janvier 2011 et j'ai eu l'immense privilège et joie émotionnelle de m'asseoir sur la colline où Jésus a donné ce sermon-là, de m'asseoir au milieu des fleurs et des oiseaux et de lire ces 3 chapitres. C'était un moment assez spécial dans ma vie. Regardez les oiseaux. Regardez les fleurs des champs. Et j'étais là et je lisais et je tremblais. Au milieu de cet enseignement, en réponse à une question que les disciples avaient posée précédemment, quand les disciples ont demandé à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous comment prier. » Jésus avait répondu, « Vous devez prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. » Une réponse de Jésus que dans les siècles qui ont suivi, on appelle le Notre Père. Dans ce contexte-là, et à la fin de cet enseignement de Jésus de comment prier, il dit au verset 14, « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Tout le monde dit « Amen » à ça. on aimerait que ça finisse là, n'est-ce pas? Si ça finit là, on pourrait dire, OK, on s'en va, le brunch est prêt, 9h35, parfait. Si vous pardonnez, mon Père Céleste vous pardonnera. Amen. Mais le texte ne finit pas là. Au verset 15, ça dit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Est-ce que c'est ça qui est marqué dans vos Bibles? Est-ce que j'ai rajouté quelque chose? Est-ce que j'ai enlevé quelque chose? La parole de Dieu, en citant notre Seigneur Jésus, dit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Maintenant, on pourrait ouvrir un grand débat théologique ce matin. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas sauvé? Est-ce que ça veut dire qu'on perd notre salut? Et j'embarque pas là-dedans. Je peux vous dire que si vous ne pardonnez pas, votre vie chrétienne est sévèrement handicapée et vous êtes enchaîné et votre relation avec Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être et il n'y a pas de puissance dans votre vie. Moi, je suis un petit anglophone de Winnipeg. On m'a dit que 32 ans plus tard, après mon arrivée aussi au Québec, que je me débrouille un petit peu en français. Quand j'ai appris la langue française, j'ai appris la grammaire aussi. Quand ce n'est pas notre langue, on étudie la langue avec la grammaire et tout ça. Et je me rappelle très bien que le mot « si », c'est un mot conditionnel. Deux petites lettres, « s » et « i » ensemble, conditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si votre police d'assurance est payée et en bonne et due forme au moment de l'accident, nous allons vous rembourser les dommages. Mais si votre assurance n'est pas payée, il y aura d'autres conséquences, puis comme chèque. Si vous avez terminé vos études de secondaire 5, on va vous donner tel salaire. Mais si vous n'avez pas complété vos études, vous allez avoir un salaire inférieur, n'est-ce pas? Et Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Est-ce que c'est clair, ça? Les sceptiques avec lesquels je suis allé à l'université il y a 30 ans à Winnipeg diraient, « Oh ben, c'est seulement un passage. » Fait que peut-être cette journée-là, quand Jésus parlait sur la colline, il y avait beaucoup de vent, puis le vent soufflait fort, puis Matthieu, il n'entendait pas bien, puis il n'a pas bien saisi ce que Jésus voulait dire. Oui, les sceptiques seront confondus du. Marc, chapitre 11. Tournez avec moi, s'il vous plaît. On va rapidement faire un petit survol du Nouveau Testament pour voir les passages sur le pardon. Marc, chapitre 11, verset 25. Dit, « Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne vos fautes. » Est-ce que Jésus l'a défini? Non. Quoi que ce soit. On peut rentrer beaucoup de choses dans quoi que ce soit, mais quoi que ce soit, ça veut dire quoi que ce soit. N'importe quoi. Cela veut dire que si vous venez à l'église dimanche matin et vous chantez, « Chantez ta joie, crie-la sur les toits, ô jaillis mon beau frère. » Que tu devrais arrêter de chanter, baisser tes mains et aller faire la paix et pardonner ce que tu as dans ton cœur contre cette personne, parce que le Seigneur t'entend même pas. si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne vos fautes. Ensuite, Matthieu chapitre 18, les versets 21 à 35. C'est une longue parabole, c'est ma parabole préférée dans la parole de Dieu. Quelqu'un m'a dit une fois, on n'est pas supposé d'avoir des versets préférés ou des passages préférés dans la parole de Dieu. J'ai dit, ah ouais, sais-tu quoi? Moi j'en ai. Fait que ça a réglé le cas-là. C'est ma parabole préférée dans toute la parole de Dieu. Et c'était en réponse à une question. C'est Pierre qui a posé la question. Avez-vous remarqué que dans les évangiles, c'est quasiment toujours Pierre qui est la porte-parole pour les disciples? C'est Pierre qui parlait tout le temps. J'ai dit aux gens en fin de semaine que moi, j'ai décrit Pierre comme ceci. Pierre, n'ayant rien à dire, a dit. Ça décrit la vie de Pierre. Tu es tout le temps en train de parler, n'est-ce pas? Oh Seigneur, même si tous les autres te renient et t'abandonnent, moi, je suis prêt à mourir avec toi. Toujours en train de parler. Et Pierre s'est approché de Jésus, peut-être poussé par les autres disciples. Vas-y, Pierre, toi, tu as une grande gueule, va demander au Seigneur. Pierre a dit au Seigneur, « Jésus, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? » Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans ce passage-là, c'est que c'est des êtres humains ici, c'est des vrais gens. Il y a des personnes qui lisent la parole de Dieu comme ils sont tous des Spock, tous des robots. Ils n'avaient pas des émotions, puis ils n'étaient pas des gens comme nous. C'était des êtres humains comme nous. Et moi, quand je vois ce passage-là, je vois Pierre s'approcher de Jésus et sa poitrine est très bien sortie, là. Il est fier de son coup, là. Parce que dans le Talmud, les rabbins ont enseigné qu'on devrait pardonner 3 fois. À notre prochain. Fait que Pierre, il dit, check bien ça. Je vais le doubler et rajouter 1. Juste comme Bonnie. 3 × 2, 6, 1, 7. Seigneur, devrais-je parler jusqu'à 7 fois? Et le Seigneur répond à Pierre, non. Je te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Attendez un peu, là. Moi, je ne suis pas le couteau le plus aiguisé dans le tiroir, là. Attendez-moi, là. 490. Pas pire, hein? 490. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Pierre ici? 490 fois? Et la 491e fois, pow, dans le kisser! Non! Jésus est en train de dire, Pierre, chaque fois, toutes les fois. Jésus a mis le chiffre tellement haut qu'on ne peut plus compter et dire toutes les fois. Et s'ensuit, après cet échange, une parabole que Jésus raconte. Vous le connaissez bien, mais je vais vous le raconter en version 2013, aujourd'hui. Il y a un roi qui décide qu'il va appeler tous ceux qui ont des dettes à son égard pour régler les comptes. Et il amène en sa présence un homme qui lui doit, dans votre Bible, ça va être marqué talent, denarii et d'autres termes. Je traduis ça pour vous. Il lui devait 5 millions de dollars. Viens ici, mon homme, je veux que tu me repaies 5 millions. L'homme tombe à genoux. S'il te plaît, patience, miséricorde, compassion. Si tu me donnes un peu de temps, je vais te repayer cette dette. Est-ce que c'est vrai? Mon œil. Mon œil. Il aurait fallu qu'il vive jusqu'à 782 ans là, pour repayer ou gagner le loto Jérusalem 649. Là. C'était impossible pour cet homme de repayer la dette. Mais le roi, il voit son cœur et il dit, « Je choisis de te pardonner. » Pardon, peux-tu répéter ça? « Je te pardonne, j'efface la dette. » Oh, happy day! Wow! Peux-tu imaginer, il s'en va chez lui, là, il est content, là. Ça va bien, son affaire, là. Et en chemin, il rencontre quelqu'un qui lui doit 5 dollars. Il dit, « Repaie-moi la dette de 5 dollars immédiatement. » L'homme tombe à genoux et il prononce exactement les mêmes paroles. « Patience, miséricorde, compassion, et je vais te repayer. » Et il dit non. Il est saisi par la gorge et il dit, « Paie-moi tout de suite, envoie-le en prison. » La nouvelle de cet incident vient aux oreilles du roi. Méchant serviteur, méchant et cruel homme, je t'ai pardonné une dette de 5 millions de dollars et tu ne peux pas trouver dans ton cœur la bonté pour pardonner à ton voisin 5 dollars? Et à la fin de cette parabole, Jésus dit, « Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Est-ce que c'est clair, ça? On continue. Colossiens 3:13. Ceux qui étaient là vendredi et samedi, vous savez que c'est le verset que je lis à toutes les cérémonies de mariage que je célèbre. Je demande au couple de lire ce passage-là. Ça dit, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » C'est un verset qui est très bon pour le contexte de l'Église. Et souvent, dans notre oreille, on l'applique immédiatement au contexte de l'Église. Mais ce verset s'applique aussi et avant tout au mariage. Si l'un a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous réciproquement, mutuellement, tout comme Christ vous a pardonné, vous aussi. Luc chapitre 23. Verset 34. Luc 23, 34. On est à la fin de l'évangile de Luc. Jésus est sur la croix. Et de la croix, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Autrement dit, « Père, moi je choisis de les pardonner, donc ensemble, toi et moi, pardonnons-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Question intéressante. De qui est-ce que Jésus parlait quand il a dit « pardonne-leur » Bonne question, hein? Il parlait certainement des soldats qui viennent de clouer ses mains et ses pieds. Il parlait certainement des pharisiens qui étaient rassemblés et disaient « il a sauvé d'autres. S'il est vraiment le Fils de Dieu, il se sauvera lui-même. » Il parlait des étrangers qui ont passé là et ont craché dans sa face. Il parlait des disciples qu'il avait tous abandonnés. Et il parlait de toi et de moi. pour nos péchés futurs. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, une autre question intéressante. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ces personnes que je viens de nommer qui a demandé d'être pardonné? Personne. Personne. Dans tout le récit de l'Évangile, la seule personne qui a demandé d'être pardonnée, c'était le criminel sur la croix. À part ça, il n'y a personne d'autre. Mais Jésus a dit, pardonne-leur. Et ça, c'est la clé du pardon. Il y a des chrétiens qui pensent, mais je vais pardonner quand la personne me demande pardon et me démontre qu'ils sont repentants et qu'ils regrettent leur coup. Ce n'est pas un modèle biblique. Si vous attendez ce moment, c'est très possible que ça ne viendrait jamais. Le conducteur qui est au volant, qui est ivre, et il tue votre enfant, c'est possible qu'il ne viendrait jamais demander pardon. Mais Dieu nous demande clairement dans sa parole de pardonner. De pardonner. On n'a pas d'autre choix. Bibliquement, on n'a pas d'autre choix. Mais en réalité, on a un autre choix. Humainement parlant, on a un autre choix. On a le choix de garder ça en dedans et de nous tuer par l'amertume. Parce que le pardon est avant tout pour moi. Pour moi. Le pardon nous libère. Matthieu chapitre 6, dernier passage, on revient exactement où on a commencé. Dans le sermon sur la montagne, on recule de quelques versets de où on était tantôt, et dans le milieu de la réponse de Jésus aux disciples, il a enseigné à ses disciples, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » J'ai entendu ces paroles des centaines de fois dans mon enfance dans l'Église catholique, avant l'âge de 16 ans, des centaines de fois. Et je les disais machinalement, comme la plupart des personnes, jamais arrêter, réfléchir à ça. Et plus tard, étant chrétien, et comme je dis, en étudiant la langue française et la grammaire, j'ai arrêté à ce verset-là, puis le mot « comme », j'ai toujours pensé que « comme », ça voulait dire « puisque ». Pardonne-nous nos offenses, étant donné que, ou puisque, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est pas ça. Ça veut dire « comme, de la même manière que ». De la même manière que. Pardonne-nous nos offenses, de la même manière que nous pardonnons aux autres. Et Dieu dit, c'est exactement ce que je vais faire. Si vous pardonnez aux autres, je vais vous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas non plus. Le pardon est le message central de la parole de Dieu. Et bibliquement parlant, face à ces textes-là, nous n'avons pas d'autres options que de pardonner chaque fois. Maintenant, je vais vous poser la question, ou je vais vous expliquer plutôt, c'est quoi le vrai pardon? Ceux qui étaient là hier, ils savent que des fois, quand je veux expliquer quelque chose, je commence en vous disant ce que ce n'est pas. Donc, avant de vous dire c'est quoi le pardon, je vais vous dire ce qui n'est pas le pardon. Le vrai pardon, ce n'est pas « cela ne me fait rien, c'était pas grave, je vais faire semblant que cela ne soit pas arrivé. » Ça, c'est le pardon que j'ai appris à Winnipeg en grandissant. 7 gars dans notre maison, 2 filles, dans une maison avec 3 chambres à coucher. Il y avait de l'action. Ça jouait du coude très souvent. On s'offensait à tous les jours. Et personne ne demandait pardon là-dedans. Et à un moment donné, Dieu a commencé à travailler dans mon cœur à 15-16 ans, la conviction du péché, Et quand j'offensais un de mes frères, je disais, I'm sorry, please forgive me. Je m'en excuse, peux-tu me pardonner? Puis la réponse était tout le temps, pas grave, tourne page, oublie ça. Ça, c'est pas pardonné. Tourne la page, ça n'est pas pardonné. Quand tu tournes la page, c'est encore là. Et ça revient, et ça nous mord dans les fesses plus tard. Pas grave, oublie ça. Pas pardonné. La vérité, c'est que, la réalité est que, cela m'a dérangé, c'était grave, et je ne peux pas faire semblant que cela ne soit pas arrivé. Autrement dit, ce que tu m'as fait, l'offense que tu m'as fait, ça m'a blessé émotionnellement et ça me fait mal. Et voilà la clé du pardon. Surtout pour nous, les Nord-Américains. Quand on était en Israël, Cathy et moi, on a découvert très rapidement que le peuple juif, des Israélites, des Hébraïques, c'est un peuple émotionnel. Émotionnel. Dans les cultes, ils dansent, ils prient avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Lisez les psaumes, si tu veux voir les émotions d'un Hébreu. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que tu vas rester silencieux devant mes cris? Seigneur, je me garde pur en vain. Mes ennemis prospèrent, puis moi, jusqu'à quand? Ça, c'est de l'émotion. Seigneur, mes ennemis, j'aimerais que tu leur casses les dents. Ah! Quoi? Casse les dents? Première fois que j'ai lu ça. Oh! C'est ça que ça dit. Ça, c'est de l'émotion. Et le problème pour nous, les Nord-Américains, les baptistes, cartésiens, c'est qu'on est des experts à pardonner du coup en haut. De pardonner intellectuellement sans jamais que ça touche nos tripes où la blessure a été infligée. Et si ça ne touche pas les tripes, ça n'est pas pardonné. Il y a des milliers de personnes qui se promènent dans nos églises qui pensent qu'ils ont pardonné, mais qu'ils n'ont pas pardonné. Pour les Hébreux, les tripes étaient le siège des émotions. C'est là. Chaque fois que vous lisez dans votre Bible, Norman, il va m'appuyer, que vous lisez le mot « cœur », c'est plus ou moins une bonne traduction, mais on n'a pas d'autres mots en français, en anglais. Mais pour les Juifs, quand on parlait des émotions, on parlait des tripes. Des intestins. C'est là que ça se vivait. Donc, j'ai un message pour vous. À Saint-Valentin, on se trompe. On ne devrait pas s'envoyer des cœurs, on devrait s'envoyer des intestins. C'est ici que ça réside, les émotions. Et si la blessure était infligée là, la blessure doit être pardonnée à partir de là. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui sait de quoi il parle, c'est bien moi. Si j'avais fait 2 heures de route de Terrebonne pour venir vous donner un message intellectuel sur le pardon, ce ne serait pas tellement efficace. Mais moi, j'ai vécu le pardon d'une nouvelle façon qui a changé ma compréhension du pardon de 30 ans de vie chrétienne en 2008, l'été 2008. Cathy et moi, après 25 ans de mariage, on a frappé le mur dans notre mariage et on était sur le point de se divorcer. Malgré le fait qu'on était un couple pastoral, l'émotion, la douleur émotionnelle était rendue tellement vive, après une période de 18 mois, on n'en pouvait plus et on était proche de se divorcer. On a pris une dernière chance d'aller en thérapie Si ça ne marchait pas, c'était fini. Et en thérapie, on arrive là. Et le mardi, la deuxième journée, il nous donne un devoir qui s'appelle un processus du pardon. À écrire l'un à l'autre. Maintenant, écoutez-moi, eux, ils l'appellent lettre de pardon. Nous autres, on a changé le mot pour exercice de pardon parce que tu ne donnes jamais ce que tu écris à l'autre personne. Je vais le répéter ce côté-ci là, pour ceux qui dorment. Là. Tu ne donnes jamais, jamais à l'autre personne ce que tu as écrit. Tu écris à partir de tes tripes, toutes les blessures, tout ce que tu ressens, mais tu ne le donnes pas à l'autre personne. Il nous explique ça. Et quand il me dit ça, je dis, Larry, je ne pense pas que j'ai grand-chose à pardonner à Cathy. Il dit, oh non? Il dit, non, non, tu ne comprends pas, Larry. Là. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis ouvrier dans une église des frères. Pas dans une église baptiste comme toi. Nous autres, on prend le repas du Seigneur à tous les dimanches, vous autres, une fois par mois. Et moi, à cette cérémonie-là, c'est moi qui préside la majorité du temps. Et j'explique aux gens l'importance du pardon. J'ai été formé par Campus Crusade for Christ. Je connais tous les versets sur le pardon. Je pense que j'ai pardonné à Cathy. Il m'a dit, Jerry, j'ai dit oui, enlève ton chapeau de pasteur. OK. Dit, Jerry, tu penses que tu n'as rien dans ton cœur à pardonner à Cathy? Bien, pas grand-chose, peut-être une ou deux petites affaires, là. Il dit, alors, pourquoi hier, quand vous avez raconté votre histoire, tu as pleuré amèrement pendant 3 heures de temps? Pourquoi tu as claqué la porte en quittant la pièce? Pourquoi tu n'as pas dormi avec Cathy hier? Pourquoi tu n'as pas pris la main de Cathy ce matin quand on a prié? Pourquoi ta face est toute crispée ce matin? Jerry, écoute le Saint-Esprit, cherche dans ton cœur et demande-lui de te révéler s'il y a quelque chose que tu as encore contre elle. Je suis capable de faire ça, Larry. Je m'installe à 7 heures le mardi soir et je dis, Saint-Esprit de Dieu, tu sais que je suis un gars linéaire, je ne veux pas écrire n'importe quoi. Aide-moi à mettre ça dans l'ordre, s'il te plaît. Chère Cathy, avant que je t'ai connue et tu sortais avec d'autres gars, d'où est-ce que ça vient, ça? Pourquoi j'écris ça? Ensuite, j'ai écrit 15 pages de cancer, de cochonnerie, de vidange qui était dans mon cœur de tous les incidents des 25 dernières années que je pensais que j'avais pardonné, mais que je n'avais pas pardonné à partir de mes tripes. Quand j'ai fini cet exercice à minuit, j'étais un guiné émotionnel, épuisé, mais spirituellement, je ressentais une liberté que j'avais jamais vécue depuis ma conversion. J'étais réellement libre. En revenant de cette thérapie, et ça, c'était le début de notre réconciliation, je suis revenu au lit, puis j'ai dit à Cathy, je t'ai complètement pardonné. On s'est embrassé et le lendemain matin, notre réconciliation a commencé. C'est pas vrai, on ne pouvait pas s'endormir. On avait un Walkman. On a commencé à chanter des louanges ensemble, là, de minuit quasiment jusqu'à 2 heures du matin. Avec un Walkman, on chante très fort. Hein? On ne s'entend pas. Fait qu'on chantait, les fenêtres étaient ouvertes, puis Larry et Laurie étaient en bas, puis Oli faisait. Ensuite, Dieu nous a réconciliés. On est revenu, on était nouveaux. Je m'installe pour mon culte en arrivant à Terrebonne. Je commence à lire la parole et le Saint-Esprit me dit, « Jerry, tu as d'autres lettres à écrire. » Pardon? « Tu as d'autres lettres à écrire. » À qui, Seigneur? À ta mère, à ton beau-père. Les amis, mon beau-père, je le détestais. Je le détestais. Depuis le jour 1. Il se moquait de moi et de ma foi depuis le jour 1. Quand j'ai demandé la main de Cathy en mariage, j'ai dit, « Je t'aime pas, toi, là, mais si elle est assez folle pour te marier, là, elle va faire ce qu'elle veut. » Ensuite, il se moquait de mon ministère. Il disait à nos enfants, « Quand ton père va avoir un vrai job, il se promène, puis il parle aux gens de Jésus, puis il quête l'argent pour que les gens lui donnent de l'argent. Là, c'est pas un homme. » Je le détestais. Dans leur maison, il y avait une photo de Cathy dans sa robe de mariage. J'exagère légèrement, mais à peu près grande comme le star, là-bas, là, okay? Sur le mur, là. Oui, oui. C'était plus petit que ça, mais c'était grand. Et je rentre dans la pièce quelques mois ou quelques années après notre mariage, puis je dis, c'est bien drôle, là. Mais dans la plupart des photos de mariage, il y a un homme. Je vais faire ce que je veux dans ma maison, ferme ta gueule. Je le détestais. Je ne voulais pas le détester. Je ne devrais pas le détester. Je suis un chrétien, OK, je ne le déteste pas. Oui, je le déteste! Intellectuellement, je lui pardonne, mais dans ma tête, non. J'ai écrit une lettre de pardon, je brûle ça, je donne ça à Jésus, Seigneur, je choisis d'y pardonner. Je brûle ça, fini. Fini. Cette photo qui était vraiment là, une épée dans mon cœur, est maintenant dans notre maison. Vous pouvez venir le voir. Pardonnez, c'est correct. Tes amis, il y a des personnes ici ce matin qui ont des lettres à pardon à écrire à un parent, à un ex-époux ou ex-épouse, à un conjoint qui t'a trompé et a commis l'adultère, un adulte, un oncle qui t'a abusé sexuellement, un employeur qui t'a congédié injustement, un pasteur, un ancien qui t'a blessé dans ton parcours chrétien. Faites-le. Cathy et les placiers vont être en arrière. Ils vont avoir des feuilles qui expliquent comment suivre ce procédure. 5 étapes très claires. 1, 2, 3, 4. On énumère tous les incidents que le Saint-Esprit me révèle sont dans mes tripes. On pardonne. On demande à Jésus de pardonner. On se pardonne soi-même et on le brûle au pied de la croix et la personne ne le reçoit pas. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi la personne ne le reçoit pas? Parce que quand tu commences à vouloir l'expliquer à l'autre personne, la personne va dire, « Ben non, c'est pas ça que je voulais dire cette fois-là. Tu es trop sensible. » C'est comme ça que ça marche quand on essaie. Mais quand on écrit devant Dieu, on peut dire tout ce qu'on veut. N'importe quoi. N'importe quoi. Monsieur Kelly, je veux savoir que je t'ai détesté depuis le jour 1. Je peux pas dire ça, je suis chrétien. Qu'est-ce que le Seigneur va penser? Le Seigneur sait déjà que c'est ça que je pense. C'est correct. Je m'excuse pour ceux qui n'ont pas bien digéré leur déjeuner ce matin, mais Larry nous a dit, Jerry, je veux juste que tu saches que ce que tu dois faire dans cet exercice, c'est de le vomir. De vomir la blessure qui est là, de la sortir complètement. Je veux vous mentionner, avant que j'oublie, que c'est même possible de faire ça avec une personne qui est décédée. Relaxez, paniquez pas, respirez par le nez. Je ne suis pas en train de parler aux morts ou de vous dire de parler aux morts. C'est que la blessure est encore là et chaque fois que tu penses à ta mère, il y a une amertume qui monte et elle est déjà partie, écris une lettre et tu vas être libéré. Ma prière ce matin est ce que Dieu vous visite et dans les semaines à venir. Voici une définition du pardon. C'est se souvenir du passé de l'incident sans douleur émotionnelle. Ça, c'est une définition du pardon. Les gens disent en français ou en anglais « forgive and forget ». Quand on pardonne, on oublie. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Est-ce que Dieu oublie ce qu'on a fait, nos offenses? Non, Dieu n'oublie pas. Hein? Dieu n'oublie pas. Dieu est omniscient. Quand je viens vers Dieu puis je dis « Seigneur, c'est moi, j'ai péché », puis il dit pas « je m'en rappelle pas ». Ça dit dans sa parole « Je ne tiens pas compte de cela à cause de l'œuvre de Jésus ». Et à cause de ça, c'est comme il l'efface et il oublie. On se souvient du passé, mais il n'y a plus de douleur émotionnelle. Quand je pense à Cathy, quand je pense à mon beau-père, quand je pense à ma mère, quand je pense aux personnes que j'ai pardonnées, il n'y a plus de douleur. Voici une définition du non-pardon. C'est de boire du poison, c'est-à-dire de se faire très mal et de s'attendre à ce que l'autre meure. Quand tu ne pardonnes pas, tu fais mal à toi-même, émotionnellement. Je prie que Dieu puisse nous visiter pour nous libérer. Avant que j'ai commencé d'écrire la lettre et dans ma prière, je savais que c'était pesant ce qui s'en venait, puis j'ai dit, « Seigneur, guide-moi émotionnellement à travers cet exercice-là. » Et il m'a donné une vision. Je ne suis pas un gars de vision. Je ne suis pas un charismatique. Je n'ai pas eu beaucoup de vision dans ma vie. Mais Dieu m'a donné une vision. Il m'a montré Corrie ten Boom et un de nos missionnaires de Rwanda, Antoine Routier-Sire, qui était debout dans une conférence de presse. Et un journaliste a dit, « Comment est-ce que vous pouvez trouver dans votre cœur, toi, Corrie, de pardonner à Adolf Hitler et toi, Antoine, de pardonner aux toutus qui ont tué ton père puis l'ont chopé en morceaux? » Et les deux ont répondu simultanément, « Si Dieu nous a pardonné un dette de 5 millions de dollars, comment nous ne pouvons pas trouver dans notre cœur de pardonner à notre prochain 5 dollars? » Et le problème, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on pense qu'on doit 5 dollars à Dieu, puis notre prochain nous doit 5 millions. C'est l'inverse. Que Dieu vous guide cette semaine. Prenez une de ces feuilles. Chaque fois que je prêche ce message, je ne vais jamais oublier la jeune fille à Québec qui est venue voir Cathy en arrière de la porte, a tremblé littéralement, a pleuré, puis a dit, « Je veux prendre la feuille, mais j'ai peur parce que je déteste ma mère. Je ne suis pas capable de l'aimer. » Cathy a dit, « Prendre la feuille. » On a entendu quelques semaines plus tard qu'elle était libérée complètement de sa peine et de sa douleur. Que Dieu vous guide cette semaine. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour ton pardon accompli à la croix pour nous. Merci de nous avoir pardonné un si grand dette, Seigneur. Aide-nous. Fortifie-nous, guide-nous dans notre temps avec toi cette semaine à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés complètement, totalement et à partir de nos tripes. Merci pour la liberté qui nous attend en retour. Visite cette Église, Seigneur, dans ton nom et pour ta gloire. Amen.